Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, il est midi 02. Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs, aux parcours qui forcent le respect et qui privilégient le Made in France. Tout à l'heure, je vous emmènerai découvrir la marque française, 100% française, experte dans la fabrication de tétines et de biberons. Ils sont les derniers en Europe à proposer ces biberons, ces tétines avec du caoutchouc naturel. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une femme au parcours exceptionnel. Séverine Martial, maman de 4 enfants, infirmière, consultante en lactation, qui est devenue chef d'entreprise. C'est ainsi que va naître Néobulle. On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Séverine.
Bonjour.
Je le disais, une femme au parcours exceptionnel qui ne s'imaginait pas être un jour à la tête d'une belle entreprise comme Néobulle. Aujourd'hui, Néobulle, c'est combien de salariés qui travaillent pour vous? C'est quel chiffre d'affaires réalisé chaque année?
Alors, Néobulle, c'est maintenant un peu plus d'une quarantaine de personnes.
Ouais.
Et on a un chiffre d'affaires de 3 millions environ. Et on a des objectifs qui augmentent chaque année maintenant.
Bah oui, alors, cette entreprise, elle a été créée en 2005, dans les Monts du Forêt, dans le 42, hein, c'est ça?
Dans le 42, voilà, c'est ça. On est au-dessus de Saint-Étienne.
Voilà, juste, c'est bien. Là, on situe bien où vous êtes.
Voilà.
Vous êtes vraiment devenu un fabricant français, donc indépendant, qui conçoit, qui commercialise d'abord des solutions de portage, des produits de soins biologiques pour les bébés et les mamans. Expliquez-nous, justement, comment on passe d'infirmière, de consultante en lactation à chef d'entreprise.
C'est parti d'un constat. Moi, je faisais des consultations d'allaitement et j'avais beaucoup de monde.
Oui.
Et j'avais trop de monde. Et en fait, je me suis dit, les parents sont seuls, les mamans sont seules et elles ont besoin de soutien. Donc, j'ai créé une association pour proposer du portage, du massage, du chant, des rencontres, voilà. Et donc, du coup, bah, forcément, les mamans ont trouvé ça vraiment très intéressant. Et il y a eu de plus en plus de monde assez court. Et ce qui fait que ça a désengorgé mes consultations. Donc, le premier effet était là. Et puis, le deuxième effet, ça a été vraiment de se dire bah, qu'il y a eu un succès fou dans cette association. Et c'est comme ça que je me suis dit, oh, bah, tiens, ça serait super rigolo, c'est qu'on crée en même temps les produits qui sont nécessaires pour apprendre à masser, pour apprendre à porter. Et, voilà. Et donc, c'est vraiment parti de ça et de se dire, bon, je suis à ce moment-là, j'ai pris le beau teint des pages jaunes, hein, parce qu'il y avait encore pas suffisamment Google qui était là. J'ai pris le premier tisseur que j'ai vu et j'ai proposé le projet sans aucune arrière-pensée business. Et en fait, ben voilà, ça a fonctionné comme ça, tout simplement parce que je pense que tout le monde a vu que ben il y avait beaucoup d'engagement. Et il y avait beaucoup de, sûrement aussi un côté un peu porteur, et le projet séduisait. Et donc, j'ai commencé à être chef d'entreprise de cette manière, un petit peu fortuitement.
En partant justement du cœur des préoccupations donc, de ces jeunes mamans, hein, vous avez créé donc, toutes ces solutions de portage. Et puis, bien évidemment, hein, c'est vrai qu'on a besoin de... Quand on est jeune maman, ben, voilà, on est dans l'apprentissage, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc, on a besoin d'être accompagné. Et tout de suite, il y a eu cette volonté de votre part, c'est de la fabrication locale, durable, éthique. Ça, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise qui a été créée en 2005. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, on n'a jamais dérogé à ça. Pour moi, on a des richesses dans chaque région. Et dans notre région, il y en avait. Il y en avait autant au niveau des soins, parce qu'on fait aussi des soins pour les bébés, et autant au niveau du tissage. Et du coup, c'était vraiment... Enfin, ça n'a même pas été une discussion, en fait.
C'était une évidence d'utiliser les ressources de la région, quoi.
Exactement, exactement. Et plus ça a été, et plus, en fait, on a sélectionné nos fournisseurs de cette manière, de la proximité, de la qualité, parce que, bien sûr, on déroge pas, et surtout quand c'est avec les bébés, et avec aussi l'idée d'engagement. On a des partenariats très longs. Moi, la plupart des fournisseurs, je les ai depuis le départ.
Ouais. Hein?
Donc, du coup, voilà.
Il y a une vraie fidélité.
Oui, il y a une vraie fidélité, et je pense que si on avait, j'allais dire, où les entrepreneurs avaient ce même type d'engagement, on n'en viendrait pas à des situations compliquées qu'on est en train de vivre.
Vous avez une manière de gérer effectivement vos salariés. Je le disais à l'instant, vous avez 4 enfants, mais vous prenez soin aussi de tous vos salariés. Pour vous donner un exemple, hein, ça je le raconte à nos auditeurs, parce qu'on se dit tout à Sud Radio, vous avez même employé une maman enceinte de quoi, 7 mois quasiment sur le point d'accoucher et qui aujourd'hui fait partie des effectifs encore de la maison.
Oui, bien sûr, ça fait 10 ans qu'elle est là, on l'a gardée. C'est parce qu'elle était vraiment exceptionnelle qu'on la voulait.
je crois qu'il y a quelques hommes quand même, il doit y avoir quoi, 3 hommes en tout, 3-4 hommes.
On a 3 hommes sur 40 et depuis que l'année dernière, hein, donc on est resté très longtemps qu'avec des femmes. J'ai un engagement aussi, j'ai toujours été proche des femmes du fait de mon métier et puis du choix que j'avais fait rapport à l'allaitement maternel. Et je sais aussi en tant que maman la difficulté qu'on a de conjuguer en même temps le travail, les besoins de la famille, notre envie aussi, hein, notre envie de maman de faire au mieux. Et je me suis dit que si, voilà, quand employer du monde, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils soient heureux dans leur travail, investis. Donc ça, c'est la première des choses, parce qu'une entreprise, ça marche si ça génère un minimum de revenus, hein, pour pouvoir payer les gens, déjà, ça commence comme ça. Mais en plus de ça, j'ai vraiment à cœur, en fait, de simplifier la vie des femmes, à mon petit niveau, bien sûr, hein, mais c'est de se dire, voilà, nous, par exemple, on n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire choisi. Enfin, les femmes...
On est libre de fixer ses horaires.
Oui. Et même à l'atelier de confection, ce qui est très rare, parce que dans un atelier de production, généralement, on fixe ses horaires. Ouais. Voilà, on a des horaires, on a des postes, etc. Nous, non. Du coup, on a dû repenser toute la façon de fabriquer un porte-bébé pour que chaque personne puisse choisir ses horaires. Donc, on a des femmes qui font des horaires en fonction de l'école, d'autres qui vont faire en fonction de du mari qui puisse récupérer à la crèche, etc. Enfin bon, c'est tout le monde choisit ses horaires à l'année et se tient à ces horaires-là. Et du coup, bah, on fait par exemple pas de chaîne, on fait pas de chaîne de production.
Ouais. Donc, vous priorisez d'abord le bien-être de vos salariés.
Oui. Parce que je pense que quand on donne du sens à son travail, quand on est investi, eh ben en fait, on a 100% gagnant. On a gagnant, bien sûr, pour le chef d'entreprise. On a gagnant pour les personnes qui travaillent avec nous, pour tous nos salariés. On a gagnant aussi, nous, dans le cadre de notre démarche, il y a aussi beaucoup l'intérêt environnemental qui est important. Et donc, voilà, je pense qu'on est 100% gagnant de faire ça.
Vous avez mis en place des conditions de travail exceptionnelles, uniques.
Alors, je ne sais pas si elles sont uniques, mais en tout cas, elles sont importantes. Et par contre, ça demande aussi, je demande aux gens d'être beaucoup plus responsables et autonomes dans leur travail. Donc, c'est un vrai engagement. On ne vient pas à Néobulle par hasard. On travaille vraiment dur.
Mais du coup, vous avez réussi ce pari de ne pas forcément être dans ce travail à la chaîne. Et pour autant, en termes de production, on le disait à l'instant, hein, c'est 3 millions de chiffre d'affaires chaque année. C'est une quarantaine de salariés. C'est une entreprise qui se porte extrêmement bien. Donc, ça n'a pas du tout handicapé le bon fonctionnement de l'entreprise.
Non, ça ne l'a pas handicapé parce qu'on a compensé par d'autres choses. Et je pense que un salarié qui est heureux d'être au travail, qui se sent investi d'une mission importante, et on a beaucoup de choses importantes à Néobulle comme l'environnement, comme le fait de développer des porte-bébés physiologiques, comme le fait de faire que des produits bio, etc. Donc les salariés sont vraiment très investis et du coup ça compense complètement peut-être le petit gain qu'on aurait en mettant à la chaîne. Mmh. Et puis c'est tellement chouette pour chaque couturière d'avoir son nom dans les porte-bébés.
Oh,
en fait, qui a confectionné ce porte-bébé. Et je pense que c'est aussi important, il faut se dire que c'est des personnes qui gagnent pas des 100 et des 1000 et parce que c'est malheureusement on peut pas les payer plus, hein, je veux dire, il faut aussi être clair, c'est des gens de production, mais par contre il y a aussi un vrai intérêt pour leur pour elles-mêmes, quoi.
Ça, une reconnaissance en fait de leur travail,
voilà,
avec cette signature qui va finalement permettre de, j'allais dire, presque customiser, quoi, personnaliser un petit peu chacun des portes bébés ou autres produits qui sont fabriqués chez vous.
Oui, voilà. Donc,
Eh bien, merci beaucoup, Séverine Martial, fondatrice de Néobulle. Bon, je crois que beaucoup de personnes voudront venir travailler chez vous, hein, après cette interview.
Écoutez, on cherche encore, hein, on cherche régulièrement des couturières parce que comme on grossit pas mal, et puis on va construire un nouveau bâtiment, donc il va y avoir encore plus de place. Donc, écoutez, l'important, c'est que l'entreprise puisse durer encore.
Voilà, un modèle économique, socio-économique vertueux. Merci beaucoup, Séverine, et je vous souhaite un très bon dimanche.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, on va se quitter une poignée de secondes et juste après, je vous emmènerai visiter cette entreprise qui fabrique des tétines avec du caoutchouc naturel, la dernière en Europe. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'enfance et au Made in France. Saviez-vous que c'est en Auvergne que se trouve la dernière fabrique de tétines caoutchouc pour bébés en France et en Europe?
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Nathalie Schmitt.
Bonjour.
Alors, vous êtes la Key Account Manager de Natai.
Voilà, on dit compte-clé en français, c'est plus simple.
Et, c'est plus simple.
Effectivement, je développe la marque Natai, donc les biberons et tétines pour bébés.
Vous êtes les derniers fabricants de tétines en caoutchouc pour bébés en France et en Europe.
C'est exact. Nous sommes les derniers et nous avons, bien entendu, 50 ans d'expertise et d'expérience donc, dans cette fabrication de tétines caoutchouc. Et avec donc une équipe qui est là pour la fabrication et la production de ces produits qui sont dédiés aux bébés, donc des produits sains et sécuritaires, bien sûr.
Première usine construite à Voré en 1972. Alors le caoutchouc, justement, c'est ce caoutchouc naturel que l'on utilise pour
Absolument.
Les tétines. C'est le matériau le plus, j'allais dire, le plus
noble,
le plus sécurisé pour les enfants.
Alors, c'est le matériau le plus noble, le plus naturel, on va dire, puisque le silicone, ce sont des matières chimiques, alors que le caoutchouc, c'est vraiment l'arbre, l'EVA qui va fabriquer du latex, et à base du latex, évidemment, on a le caoutchouc. Donc, c'est vraiment une matière naturelle.
Alors, comment on explique qu'il y ait aussi peu de fabricants de tétines en caoutchouc?
Alors il y en a eu, mais bon, malheureusement, vous savez que avec les importations aujourd'hui assez importantes, on avait d'autres fabricants ici en France, mais maintenant, nous on fait partie, on est le dernier parce qu'effectivement, il y en a plus. Il y a aussi eu les tendances, on va dire de les tendances sur le silicone, qui aujourd'hui commence aussi d'ailleurs à s'essouffler puisque les mamans reviennent à ce côté naturalité.
Du coup, voilà. C'est un vrai atout pour Natae d'avoir tout son process de fabrication sur place.
Absolument, absolument. C'est très important pour nous. Et alors, les valeurs de Natae, évidemment, c'est une marque qui est 100% fabrication française. On a des engagements de qualité avec des matériaux naturels, sains et nobles, puisque c'est dédié aux bébés. Et donc, on a besoin d'apporter du confort pour le bébé et aussi pour la maman. On a des engagements aussi, notamment sur l'environnement, avec des emballages recyclables. Et puis, on travaille, bien entendu, sur une démarche sur l'empreinte carbone, en travaillant avec des partenaires locaux.
Du coup, le caoutchouc, il vient d'où hein?
Alors, le caoutchouc, lui, très très clairement, ne peut pas être fabriqué en France. Enfin, la matière première ne peut pas venir de France. Parce que l'EVA, si vous voulez, il va produire du latex, mais à proximité de l'équateur.
Ah.
Donc, voilà. Et donc, pour cela, nous avons une exploitation spécifique au Vietnam qui produit cette matière première que nous avons et où vous avez, en fait, un caoutchouc qui est à 100% naturel, en fait. Hein. Et c'est vraiment spécifique parce que cette matière-là, ce caoutchouc, il faut qu'il soit le plus, on va dire, transparent possible.
Ouais.
Voilà.
Et au niveau des tétines en silicone, parce que vous avez finalement deux...
Alors, on a deux usines qui sont basées à Voré, donc effectivement en Haute-Loire. On a une usine de caoutchouc et on a une usine effectivement de fabrication de tétines silicone. Donc le silicone, c'est plutôt... le silicone, c'est silice, donc le silice, le sable. Et à partir de là, on va rechercher des matériaux naturels et on va produire, mais là cette fois chimiquement, puisque c'est une production de tétine par injection. Là, le silicone c'est par injection et le caoutchouc c'est par on le presse en fait.
Ah, hein, c'est très par bien. Pression,
voilà.
Du coup, aujourd'hui, Nathalie, en étant pour sa proposition de tétine en caoutchouc, les oui. seuls sur le marché français et en Europe, vous le disiez, hein, il y a un retour à ces tétines caoutchouc. Donc, c'est une marque qui exporte une grande partie de sa production.
Alors, on exporte évidemment notre production sur différents pays, dans 18 pays différents. On fabrique pour 18 pays différents et la marque Natae, effectivement, est distribuée dans différents pays et pas que en France, effectivement. Le produit français, c'est vraiment un produit qui est au niveau du marché international, qui est très prisé. Hein.
Ah, ça, c'est important de le rappeler. Il y a un savoir-faire oui. qui oui. est recherché, qui est demandé et qui est très prisé, comme vous le disiez à l'instant.
Voilà.
Alors, du coup, pour une entreprise comme... Nathalie, comment on innove justement dans ce secteur de la tétine, de la fabrication de tétine? Est-ce qu'on a une marge pour innover?
Alors, on a une marge pour innover, mais vous savez que pour la fabrication, il faut être extrêmement créatif. Alors nous, on a en plus un bureau d'études qui est sur place et qui va créer les produits, notamment la forme des tétines. On a des outils pour ça justement, avec une équipe d'experts. Donc on travaille sur effectivement des innovations. Là, cette marque-là, Nathalie, a été lancée assez récemment, puisque les usines, elles, travaillent depuis 50 ans, mais cette marque, elle est assez récente. Et donc, on est dans les bureaux d'études à travailler avec des experts pour trouver des nouveautés, des nouveaux produits, des cuillères, des sucettes, vous savez, les sucettes pour les bébés, voilà.
Et tout ça fabriqué voilà. sur le territoire français.
Ah oui, c'est très important. C'est une volonté, c'est vraiment une volonté de la marque Nathalie d'avoir du 100% fabrication ouais. française. Voilà.
Ben merci beaucoup Nathalie Schmitt. On voulait justement faire découvrir dans cette émission consacrée à l'enfance ces entreprises qui sont sur le sol français et qui essayent d'innover un maximum sur ce sol français. Donc on peut encore trouver, on le sait bien au niveau des biberons, mais aussi au niveau des tétines, des tétines fabriquées en France. Et pour les tétines en caoutchouc, on l'a bien compris, c'est au Vietnam, mais parce que tout simplement, la matière première est là-bas.
Voilà, exactement.
Et à côté. Merci beaucoup et bon dimanche à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Vous restez dans le Var, vous. Hein. Vous avez tellement adoré...
J'adore le Var, maintenant.
...ce coin de France. Vous ne quittez plus le Var. Alors, c'est un département viticole. On peut comprendre pourquoi. Mais comme vous ne faites pas les choses comme tout le monde, hein, vous avez décidé de nous parler d'un producteur de bière.
Et oui, je voulais mettre en avant une belle aventure, celle de Thomas Carteron, un ancien vigneron, qui s'est lancé dans la bière il y a 9 ans. Sa brasserie porte son nom. Et elle est installée à côté d'hier, elle est déjà couverte de médailles. Et justement, je lui ai demandé le secret de l'excellence de sa bière.
Alors avant tout, c'est très facile de faire une bière. Ce qui est plus compliqué, c'est certes de faire une bonne bière, mais de la faire dans le temps. Et je crois qu'en s'imposant des règles très strictes, avec une semi-automatisation du process, ça nous permet d'avoir de la régularité dans notre production, et ça c'est une chose importante. Et de ma formation d'ingénieur agricole, c'est une chose que j'ai pu aisément mettre en place. Et ça fait maintenant 9 ans que je suis brasseur. J'ai commencé sur Saint-Tropez et je me suis installé à Hyères en 2016.
Vous faites le choix d'ouvrir grand les portes à la visite. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de partager votre savoir-faire?
Alors quand j'étais vigneron, je faisais déjà des visites d'entreprise. Et l'idée, c'était vraiment de faire découvrir un nouveau métier dans le Var. Dans cette région qui est plus vinicole que brassicole, ça attise vraiment un intérêt auprès du Varois comme auprès du touriste. Et Dieu sait si on en a beaucoup, merci.
Quand on écoute Thomas, on sent vraiment sa passion pour son métier de brasseur. Ça donne envie de faire la visite. C'est possible parce que vous l'avez faite, cette visite, justement.
Ouais, je l'ai faite. Alors, ça dure à peu près une heure. Ça commence par un petit topo sur le marché de la bière. Ensuite, on va au cœur du process avec les différentes phases de création. Ça se passe devant les machines, hein, elles sont en train de fonctionner. Et on finit par une dégustation. Ah. Et il y en a pour tous les goûts. Blonde, blanche, rose, ambrée, IPA pour les connaisseurs. Et même une bière à la châtaigne à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, je vous propose un petit bout de la visite.
Donc on est au cœur de l'atelier. On est entouré de machines. Est-ce qu'on peut décrire ces machines ?
Alors effectivement, ici, vous êtes dans la zone de production. Vous avez en face ce qu'on appelle la partie chaude, qui nous permet vraiment de produire nos brassins, le moût qui va rentrer en fermentation, et qu'on va mettre dans les cuves tronconiques, les quatre cuves tronconiques que vous voyez, qui permettent de lancer la fermentation de manière très facile. Et ensuite, une fois que la fermentation est terminée, de venir recueillir les levures et de commencer la clarification de nos bières.
Sachant que tout commence avec de l'eau et du malt, c'est ça ?
De l'eau, des maltes, des houblons et des levures. La bière, c'est ses quatre ingrédients principaux.
Combien de temps il faut pour brasser ? Ça prend combien de temps ce process ?
Le process dure à peu près une dizaine d'heures pour le brassin en lui-même. Ensuite, vous avez une semaine de fermentation et derrière, 3 à 4 semaines de maturation. Donc, vous avez d'abord l'utilisation des maltes, la transformation de la farine, c'est-à-dire de l'amidon, en sucre. Ce sucre va être consommé dans les fermenteurs par les levures, vont créer l'alcool, la pétillance et les arômes. Et ensuite, on va avoir donc 3 à 4 semaines de maturation, pendant lesquelles on va venir clarifier nos bières, les rendre plus brillantes, plus limpides, et les préparer à la mise en bouteille pour avoir le bon taux de mousse, soit à la pression en fût, soit directement en bouteille.
Donc la ligne d'embouteillage fait également partie de la visite ?
Tout à fait. Alors on ne produit pas toutes les semaines et on ne conditionne pas toutes les semaines. En général, on est une semaine sur deux. Soit en production, soit en conditionnement, on est une petite équipe. Là, on est sur une mise en bouteille d'une blonde. C'est notre bière la plus médaillée. On a 4 médailles sur cette recette. Et donc, il y a une première partie de rinçage des bouteilles, puis de mise sous pression des bouteilles, remplissage. On vient poser ensuite une capsule et on finit par la mise en carton.
Tout simplement. Et pour être complet, ces visites ont lieu quand, Thibaut ?
Eh ben, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 17h. Il faut réserver un créneau de visite sur Internet. Brasserie Carteron, tout attaché, Carteron, CARTERON.com.
Merci beaucoup Thibaut pour cette visite et on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast sur sudradio.fr. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même radio, avec de nouvelles découvertes Made in France. Bonne journée à vous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.